VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 1er novembre 2017, l'attentat de New York qui a fait 8 morts a été perpétré au nom du groupe État islamique selon la police. Le président Donald Trump a annoncé vouloir envoyer le suspect à Guantanamo et mettre fin à la loterie des cartes vertes. 5 enfants ont été tués hier soir dans un attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Force conjointe du G5 Sahel, déploiement des Maliens, Nigériens et Burkinabés. 300 migrants secourus au large des côtes libyennes qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Ville morte à Bukavu en RDC pour exiger les élections avant 2018. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. La police new-yorkaise a déclaré que l'homme soupçonné d'avoir tué 8 personnes hier au volant d'une camionnette sur une piste cyclable de New York semble avoir agi au nom du groupe État islamique. Un compte-rendu de Jacques Aristide à New York sur cet attentat qui a fait 8 morts.
L'attaque a été préparée pendant plusieurs semaines. D'après le chef adjoint de la police de New York, lors d'une conférence de presse, John Miller a également confirmé qu'il s'agit de Saifullah Saipov, un Ouzbek de 29 ans, arrivé sur le territoire américain en mars 2010. Le suspect, dit-il, ne faisait pas l'objet d'une enquête avant son passage à l'acte. Il semble avoir suivi à la lettre les instructions du groupe État islamique sur les réseaux sociaux, indique John Miller. Parmi les objets découverts se trouvait un message manuscrit en arabe citant le groupe djihadiste. Plusieurs couteaux ont également été retrouvés à l'intérieur et autour du véhicule utilisé pour foncer sur les piétons et les cyclistes dans le sud-ouest de Manhattan. De même, les policiers ont retrouvé un pistolet de paintball et un pistolet à plomb. Blessé par un policier, l'assaillant a été interrogé sur son lit d'hôpital. Les autorités attendent d'en savoir plus sur son état de santé. Au cours du même point de presse, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a précisé que les autorités ne voyaient pas en l'état d'autres menaces crédibles contre la ville. Pour sa part, le président américain a évoqué ce mercredi la possibilité d'envoyer l'auteur de l'attentat dans la prison de Guantanamo, créée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Donald Trump l'a qualifié d'animal, appelant à un changement de politique sur l'immigration, avec en particulier la fin du système d'attribution à la loterie des cartes vertes.
5 enfants ont été tués mardi soir et 2 autres blessés dans un attentat suicide à Zamga, dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, selon des sources sécuritaires. Un groupe d'enfants jouait lorsqu'une fillette portant une charge explosive s'est introduite dans le groupe, selon un responsable de la sécurité. RDC Sud Kivu, ville morte à Bukavu pour réclamer des élections avant 2018 suite à un appel à la grève générale lancé par une coalition des forces vives. Notre correspondant Ernest Mouero nous en dit plus.
La vie a tourné au ralenti ce mercredi à Bukavu, et cela malgré les assurances des autorités provinciales et municipales, appelant la population par voie des médias locaux à vaquer paisiblement à leurs occupations. Boutiques, magasins, stations de vente de carburant et autres activités socio-économiques ont été pour la plupart paralysées. Plusieurs écoles ont renvoyé les élèves à la maison et l'ambiance dans différents marchés était moins habituelle car une grande majorité des habitants de Bukavu ont préféré boycotter les activités, répondant à cet appel à la grève générale de la coalition des mouvements citoyens et les partis politiques de l'opposition. Les ONG et la plupart des banques et institutions des microfinances sont restées fermées toute la journée. Un dispositif sécuritaire a été déployé dans quelques axes de la ville de Bukavu, tels chez Rumama et à la place de l'Indépendance. Mais dans les quartiers populaires où la majorité de la population vit au taux du jour, la circulation était déjà fluide l'après-midi et plusieurs familles s'empressaient en début de soirée de faire écouler leurs marchandises. Au niveau de la fonction publique, tous les bureaux ont ouvert, dit-on sur mot d'ordre, mais plusieurs fonctionnaires contactés ont déclaré n'avoir pas le cœur à l'ouvrage. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
La force conjointe du G5 Sahel a entamé ses premières opérations dans la zone transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé la force militaire française Barkhane, qui soutient les troupes africaines. Le déploiement des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés a débuté ce matin, a déclaré le lieutenant-colonel français Marc-Antoine, qui coordonne avec une centaine d'hommes de Barkhane cette première opération de la force africaine de soldats de 5 pays de la région. La Cour suprême du Libéria a ordonné un arrêt temporaire des préparatifs de l'élection présidentielle de la semaine prochaine, dans l'attente d'une audience sur les plaintes alléguant des irrégularités au premier tour. Salwa Jafari.
Les représentants de la Commission électorale nationale ainsi que les plaignants devraient comparaître jeudi, a déclaré le tribunal dans un communiqué. Trois partis politiques, dont le Liberty Party de Charles Bramskin, sont à l'origine de ce recours en justice. Ils dénoncent un scrutin entaché d'irrégularités et de fraudes massives et systématiques. La Cour a souligné que cet arrêt n'était en aucun cas une annulation des élections du 10 octobre. Le déroulement du premier tour a été salué comme largement crédible par les observateurs nationaux et internationaux. Le vice-président libérien Joseph Boakai affrontera l'ancien footballeur international George Weah. Aucun des deux candidats n'a obtenu le vote requis de 50% plus 1 pour emporter la victoire au premier tour. Ce scrutin est considéré comme un test crucial dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, près de 15 ans après la fin d'une terrible guerre civile ayant fait quelque 250 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes à l'est de Tripoli, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Le point avec Solange Niamoulissa.
Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne, a indiqué qu'une vedette des gardes-côtes a secouru 299 migrants clandestins au large de la ville de Zliten, à 170 km de Tripoli, dont 40 femmes et 19 enfants. Ils ont été ramenés à la base navale de Tripoli avant d'être transférés au centre de rétention de Tadjoura en présence de représentants des agences de l'ONU, a précisé le porte-parole. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, la ville de Sabratha, à 170 km à l'ouest de Tripoli, était devenue le principal point de départ de l'immigration clandestine. Les passeurs profitaient du vide sécuritaire et d'une impunité totale. Plus de 14 000 migrants et réfugiés qui étaient aux mains des trafiquants dans et autour de Sabratha ont été transférés par les autorités dans des centres de rétention ou remis à des organisations caritatives. Selon un dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre janvier et octobre et au moins 2 800 autres sont morts ou portés disparus en mer.
Deux policiers tunisiens ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement par un extrémiste et l'un d'eux est grièvement blessé, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un salafiste a attaqué au couteau deux policiers, l'un a été touché au front, l'autre au cou et ce dernier est en soins intensifs, précise le ministère. Le président catalan destitué Carles Puigdemont ne se rendra pas à sa convocation de justice à Madrid jeudi et demandera à être interrogé depuis la Belgique, a déclaré son avocat à la télévision publique catalane. Il ne va pas à Madrid et j'ai proposé qu'on l'interroge ici en Belgique, c'est possible. J'ai déjà eu dans le passé des cas comme ça, a déclaré l'avocat belge Paul Bekaert sur TV3. Au Yémen, 29 personnes qui se trouvaient sur un marché populaire de Sahar ont été tuées et 17 blessées dans un raid aérien, selon les rebelles houthis qui l'attribuent à l'aviation saoudienne. L'agence de presse Sabah, soutenue par l'Iran, a accusé l'aviation de l'Arabie saoudite d'être à l'origine de ce bombardement. Selon elle, le raid a fait 21 morts et 9 blessés, tous des civils, mais le responsable des services de santé de la rébellion a été incapable de dire si les victimes étaient toute civile. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré à Téhéran les dirigeants iraniens pour des discussions sur la Syrie, le nucléaire et le renforcement de la coopération économique entre la Russie et l'Iran. La Russie est un pays ami et le partenaire stratégique de l'Iran, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani après avoir rencontré son homologue. En Syrie, la coopération de l'Iran et de la Russie a eu un grand effet dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il ajouté. Monsieur Poutine a ensuite été reçu par le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, avant de retrouver M. Rouhani et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour un sommet tripartite entre les États riverains de la mer Caspienne. Les factions de l'opposition syrienne en exil ont exclu toute participation à des pourparlers avec le régime Bachar el-Assad que la Russie veut organiser, rejetant des négociations qui ne seraient pas parrainées par l'ONU. Moscou a annoncé mardi organiser le 18 novembre à Sotchi un congrès du dialogue national syrien, assurant avoir invité les principaux groupes de l'opposition. L'annonce intervenait à l'issue d'un nouveau cycle de pourparlers de paix sur la Syrie qui s'est achevé hier à Astana au Kazakhstan. Et le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis une décennie à Gaza, a cédé ce mercredi le contrôle du point de passage avec l'Égypte à l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas. Un transfert de responsabilité perçu comme un test majeur pour l'accord de réconciliation conclu le mois dernier à l'aide d'une médiation égyptienne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
L'Union européenne a financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA les efforts de protection de l'environnement dans le cadre du sixième volet de l'opération écosystème des forêts d'Afrique centrale. Pour le Cameroun, 10 milliards de francs CFA de cette enveloppe seront dédiés aux activités de conservation des écosystèmes du pays. Le ministère camerounais des forêts et de la faune a précisé que cet appui de l'Union européenne appuiera la lutte contre le braconnage et le commerce illicite d'ivoire sur toute l'étendue du territoire. La Development Bank of Nigeria accorde un prêt de 13,98 millions de dollars à 3 établissements de microfinance du pays. Cette banque spécialisée soutient au total 20 000 entreprises. L'institution financière nigériane devrait bénéficier très prochainement des financements de 1,3 milliard de dollars de 4 banques étrangères. En Mauritanie, la zone franche de Nouadhibou a investi 250 millions de dollars sur des projets dans différents domaines depuis sa création il y a 4 ans. Au cours d'un point de presse, son président Mohamed Ould Daff a indiqué que l'institution compte désormais de manière exclusive sur ses entrées en matière de taxes et redevances, précisant que plus de 80% du budget de la zone est dépensé dans les ressources humaines et la propriété de la ville. Il a ajouté que le chiffre d'affaires du port autonome de Nouadhibou pour l'exercice 2017 s'approche de 13,9 millions de dollars.
Présent les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors qui sera le meilleur joueur africain 2017 ?
Pierre-Emerick Aubameyang apparaît comme le grand favori pour le titre du joueur africain de l'année. Le Gabonais a réussi la performance de terminer meilleur buteur du championnat d'Allemagne, la Bundesliga à l'issue de la saison dernière avec 31 buts. Le Sénégalais Sadio Mané avec Liverpool et le Camerounais Vincent Aboubakar avec Porto sont en embuscade. On rappelle que le vainqueur succédera à l'Algérien Riyad Mahrez, vainqueur du trophée 2016. Le gagnant sera déterminé par les votes des sélectionneurs mais également des directeurs techniques des associations nationales affiliées à la CAF, ainsi que des membres du comité technique et développement de la CAF, ainsi qu'un panel d'experts des médias.
Suite et fin de la quatrième journée de Ligue des Champions ce soir.
Dans le groupe E, après la gifle historique infligée à Maribor par Liverpool, les Reds accueillent à Anfield les Slovènes. Le FC Séville fera face au Spartak Moscou. Dans le groupe F, faux pas interdit pour Naples, à domicile contre Manchester City. Shakhtar Donetsk face au Feyenoord Rotterdam, dernier avec 0 points. Dans le groupe G, à Istanbul, le Beşiktaş peut éliminer définitivement Monaco. Porto accueille les Allemands de Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le choc en Angleterre entre les deux leaders de la poule, avec 7 points chacun, Tottenham et Real Madrid. Dortmund fera face à la Poel Nicosie.
En cyclisme, le tour du Burkina Faso.
La sixième étape entre Dano et Gawa, le Belge Jari Vestrate est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il devance le Malien Yaya Diallo. Le meilleur Burkinabé du jour est arrivé quatrième, Abdoulaye Rwamba. Benjamin Stoddard, l'Allemand, conserve le maillot jaune de leader. À suivre demain, la septième étape entre Banfora et Bobo Dioulasso.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Oklahoma City est allé s'imposer facilement à Milwaukee, 110 à 91. À Los Angeles, les Lakers sont surclassés, Détroit, 113 à 93. À domicile, Indiana domine Sacramento, 100 à 83. Enfin, la défaite à domicile des Nets à Brooklyn contre les Suns de Phoenix, 114 à 122.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. L'attaque terroriste qui a fait 8 morts hier à New York est la première dans cette ville américaine depuis le 11 septembre 2001. C'est aussi la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche que le président américain est confronté à ce type d'attaque. En réaction, Donald Trump a annoncé le renforcement des contrôles des étrangers arrivant sur le sol américain. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mohamed Bodj, professeur à Manhattanville College. Voici d'abord sa réaction en tant que résident de New York.
Je suis horrifié à chaque fois qu'il y a des morts inutiles, en quelque sorte, que ce soit des accidents, mais ici, évidemment, c'est un crime délibéré, donc c'est une attaque délibérée sur des gens qui, finalement, n'ont aucune connexion par rapport même à ce qu'on peut appeler le combat que cet individu pense mener. Donc, je suis absolument horrifié. Et ensuite, New York City, d'une manière générale, est un havre de paix qui reçoit tous les étrangers du monde. Et si on voit la composition des victimes, où il y a une majorité d'Argentins, etc., c'est encore doublement horrible parce que ces gens-là étaient venus ici pour quelques heures, pour quelques jours. Et y rencontrer une mort si brutale n'est certainement pas mérité.
Politiquement, est-ce un coup dur pour le président Trump?
C'est un coup dur, en quelque sorte, parce que c'est le tout sécuritaire qui agite une partie de ses électeurs et une sorte de penser qu'il y a une solution à tout, et en particulier en restreignant le flot de ce qu'on peut appeler des étrangers indésirables, on aurait pu le faire. Mais ce qui s'est passé, c'est finalement quelqu'un qui a régulièrement et de façon très légale immigré dans ce pays et qui s'est radicalisé selon toutes les informations que nous avons jusqu'à présent. Donc, s'est radicalisé dans ce pays même et donc n'était pas visible sur le radar des autorités compétentes. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'erreur sur ce registre qui fait que les services de sécurité ont été pris au dépourvu. Et en fin de compte, Trump, qui est le président, doit être responsable de ce genre de faute.
L'auteur de l'attentat, un Ouzbek, a apparemment bénéficié de la loterie des cartes vertes. Cette attaque va-t-elle avoir des conséquences sur la politique migratoire du président?
Je ne le pense pas. Que ça puisse renforcer ses idées, que c'est, encore une fois, c'est une partie de ses électeurs qui pensent comme lui, certainement. Mais tous les autres éléments de ce dossier laissent à penser qu'en réalité, les types de mesures que M. Trump a pris depuis quelques mois n'aurait pas pu empêcher un individu pareil de perpétrer ce qu'il a perpétré. Deuxièmement, il entre dans un domaine assez dangereux parce que la loterie pour la diversité était aussi une sorte de rattrapage de l'équilibre racial et religieux de ce pays qui a favorisé pendant longtemps l'immigration des Européens du Nord, et finalement revenir là-dessus montre une sorte de gaffe raciale qui va être exploitée.
C'était le professeur Mohamed Bodj de Manhattanville College.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, le convoi du président de la Haute Cour de justice est tombé dans une embuscade hier dans le cercle de Ténénkou. Abdarahman Niang n'a pas été blessé, mais l'opération de sauvetage a coûté la vie à son chauffeur et 6 militaires. Notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum, nous en dit plus.
Cette attaque est intervenue au moment où le président de la Haute Cour de justice a quitté Ténénkou pour Bamako. Dès l'annonce de la nouvelle, les forces armées maliennes ont pris le problème à bras le corps. Le général Sidi Alassane Touré est le gouverneur de la région de Mopti.
Au moment où il y a eu l'attaque, très rapidement, des mesures ont été prises pour se rendre sur les lieux. Tout de suite, il y a un détachement qui a quitté Massina pour aller sur les lieux. Un autre détachement aussi a quitté Ténénkou pour rapidement se rendre sur les lieux. Quelques minutes après, il y a un hélico qui a quitté un hélico de combat qui a quitté Sévaré et qui, une vingtaine de minutes, était sur les lieux et qui, d'ailleurs, a créé une panique au niveau de ces bandits-là. C'est ce qui a fait que, effectivement, quelque part, on a pu rapidement secourir le président Niang. C'est grâce, effectivement, à la réaction très rapide des forces armées de sécurité.
Cette mission de sauvetage a coûté la vie à 7 personnes, comme l'indique le général Touré.
Le détachement qui a quitté Massina, juste avant d'arriver au lieu de l'accrochage, il y a un de nos véhicules qui est monté sur une mine qui a occasionné 5 morts. Donc on a perdu 5 soldats sur le coup. Aussi, le détachement qui a quitté Tenenkou, au retour, après avoir récupéré l'honorable Nyang, au retour, il y a un de nos véhicules aussi qui est monté sur une mine. Et là, on a déploré un mort. Dans le rang. Et 6 soldats qui sont tombés et aussi le civil. Je veux parler du chauffeur de Lonor Nyang. Donc au total, ça fait 7 morts.
Ces différentes attaques prouvent que l'insécurité règne dans la région de Mopti. Mais selon le chef de l'exécutif régional, des stratégies sont mises en œuvre pour sécuriser les populations et leurs biens. Général Sidi Alassane Touré, gouverneur de Mopti.
Vous savez, il y a effectivement des menaces. Les menaces, elles sont claires. Aujourd'hui, ces menaces ont été très bien étudiées, très bien analysées à un haut niveau. Donc où aujourd'hui, il y a eu des réponses. Il y a des réponses à ces menaces. Et ces réponses aujourd'hui sont traduites par l'élaboration d'un plan. Et ce plan consiste effectivement à aller occuper et partout où l'administration n'existe pas, de envoyer les forces armées de sécurité, occuper le terrain, comme vous le dites, la nature a horreur de vite, et permettre au retour des services sociaux de base. Et c'est ce que nous avons fait à Kwakulu, et c'est ce que nous avons continué à faire dans le reste de la région.
Pour relever le défi sécuritaire, l'implication de la population est indispensable en termes de renseignement et de résistance. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, analyse sur le dossier G5 Sahel. Lundi, Washington a annoncé l'octroi d'une aide bilatérale de 60 millions de dollars à cette force antiterroriste africaine. Mais les États-Unis refusent toujours d'accéder à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des 5 pays du Sahel, de la France et d'une majorité du Conseil de sécurité d'autoriser un soutien de l'ONU. Y a-t-il une inflexion dans la position américaine ? Comment les États africains peuvent-ils venir à bout de la menace terroriste ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Tchad, plus de 1300 ex-membres de Boko Haram, tous originaires de la région du lac, ont quitté le mouvement djihadiste pour faire la paix. Notre correspondant André Kodmadjingar s'est rendu dans cette région. Voici son reportage.
Après plusieurs mois de cantonnement dans un camp de transit à Bagassola, ces repentis de Boko Haram ont été confiés à leurs chefs des communautés respectives. Des sensibilisations ont été faites auprès de la population locale pour ne pas les stigmatiser, mais plutôt les accepter dans la communauté comme leurs frères. À Yakoua, un des villages abritant une partie de ces repentis, situé à une dizaine de kilomètres de Bol, chef-lieu de la région du lac où nous sommes rendus, quelques repentis expliquent comment ils ont été enrôlés dans cette secte.
Je vivais avec mon mari quand les Boko Haram sont venus dans notre village. Ils ont tué les gens et brûlé toutes nos maisons. Ils nous ont dit que si nous ne partons pas avec eux, ils vont nous tuer aussi. C'est ainsi qu'on a décidé de partir avec eux en abandonnant nos deux enfants. À chaque fois, on attaque un village et quand les habitants fuient, on ramasse leurs provisions et on se partage pour manger. Chemin faisant, mon mari a été tué et ils veulent me donner un autre mari et j'ai refusé. Ils m'ont menacé et j'ai fui pour venir ici après avoir combattu pendant 3 ans avec les Boko Haram.
On m'a enrôlé de force. Tous les jours, durant les 3 ans que j'ai mis avec eux, ils nous ont appris le maniement des armes, par exemple comment faire exploser une bombe. Maintenant que j'ai retrouvé mes parents, je ne vais plus repartir.
Un agent humanitaire qui requiert l'anonymat a déclaré à la VOA Afrique que les autorités locales font de la gestion de ces repentis leur fonds de commerce.
La meilleure approche, c'est de ne pas les considérer comme des repentis à part dans les actions de développement, mais c'est de mettre les actions de développement ensemble. En voulant les aider, vous créez quelque chose ici. Le petit commerçant qui n'a pas bougé avec son moulin ici, vous venez avec un moulin sophistiqué, vous donnez aux repentis, mais vous avez cassé son marché. C'est pas parce qu'on les a vus à la télé qu'ils souffrent qu'il faut donner des moulins. C'est un sur le problème de communication. À qui m'adresser en cas de problème en tant que repenti? Parce que si tu dis à l'autre, il va aller te trahir. Du moment où les responsables se devenir un fonds de commerce. Tous ceux qui sont dans les pirogues, là, c'est des agents de renseignement.
Pour le gouverneur de la région du lac Adom Forte, il n'y a aucun problème dans la gestion de ces repentis.
À ma connaissance, il n'y a aucun problème. Depuis qu'on a intégré dans leur famille, il y a au moins deux fois des appuis au niveau des femmes qui ont été faits. Là, nous sommes en discussion pour essayer de voir comment les partenaires peuvent nous aider afin que ces gens puissent se prendre en charge. Leur avenir dépend de la manière qu'on arrive à les responsabiliser pour qu'ils puissent prendre conscience.
Selon les indiscrétions, beaucoup sont repartis puisqu'ils sont fatigués d'attendre la promesse de leur réinsertion qui tarde à se concrétiser. André Koduma Djingar, de retour de Bol dans la région du lac N'Djamena, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, les subventions du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose seront désormais gérées par le PNUD pour la période 2018-2020, car le financement de 30 millions de dollars accordé au pays cette année n'a pas été utilisé et les résultats attendus n'ont pas été atteints. Plus de précisions dans un reportage de Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Depuis 2003, le Fonds mondial a accordé au ministère burundais de la Santé des subventions sanitaires de plus de 270 millions de dollars américains qui ont été utilisées pour la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, le traitement des patients sous antirétroviraux et les malades traités contre la tuberculose, ainsi que le renforcement du système de santé. 30 millions de dollars sont retournés cette année parce qu'ils n'ont pas été utilisés dû à des retards du ministère de la Santé. Le Fonds mondial a donc pris la décision de faire transiter les plus de 72 millions de dollars pour la période 2018-2020 au PNUD de Burundi. Pour le porte-parole de l'ONG burundaise Cadre d'expression des malades, il demande une coopération assidue entre le ministère burundais de la Santé et le PNUD, Sylvain Havanalizé.
Vraiment, ça va déranger le ministère de la Santé, mais aussi les malades. Nous demandons que le PNUD n'écarte pas le ministère de la Santé, que le PNUD collabore étroitement avec le ministère de la Santé pour que les conséquences néfastes n'incombent pas aux malades. Le SEMABU demande au ministère de la Santé d'approcher le PNUD pour qu'il travaille étroitement. Ça va aider les malades. Nous demandons au ministère de suivre les agents du ministère pour que ces fautes ne se répètent plus.
Pour n'avoir pas atteint les objectifs fixés, une gestion financière qui n'est pas claire, le Fonds mondial a donné les fonds pour les années 2018-2020 au PNUD Burundi pour leur gestion. Pour la ministre de la Santé, Janvienne Nirahisha, cette décision ne pénalise point les malades car ces fonds seront dans les caisses de la Banque de la République du Burundi.
Cette décision, ce n'est pas pour la première fois qu'elle soit prise pour un pays. Il n'y a pas de torchon qui brûle entre le Burundi et le Fonds mondial. Parce que le Fonds mondial n'a pas dit qu'il retire les fonds qu'il octroyait au Burundi. Non, nous sommes en procédure de demande des fonds pour la période 2018-2020. Les procédures continuent. D'ailleurs, le fait même qu'on a dit que ces fonds vont passer par le PNUD, je pense que ça vous rassure que ces fonds seront au pays. 72 millions de dollars vont venir au Burundi et ces fonds seront logés comme l'a déclaré la délégation du fonds que nous venons de recevoir au Burundi, que ces fonds vont être logés à la Banque de la République du Burundi. Les récipiendaires, les sous-récipiendaires qui sont les programmes vont rester à leur œuvre. Donc les Burundais peuvent être tranquilles. C'est la paix.
Il est à rappeler que le Burundi est parmi les pays les plus pauvres de la planète, qui dépend à plus de 60% des subventions de la communauté internationale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Audrius Regis, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.